langues inconnues commençaient à dérouter.
La langue d'Ebla était une langue proche de l'hébreu et de l'acadien qui, comme votre maître le sait peut-être, jeune homme, est une langue sémitique que l'on parlait en Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Toujours est-il que cette tablette fut un jour exhumée dans la vallée de l'Araba, au sud de la mer Morte, dans les restes d'une ancienne forge. Et cette tablette, donc, mentionnait le livre qui n'existe pas. Il y a eu par la suite d'autres références à ce mystérieux registre, mais celle-ci est la plus ancienne que je connaisse.
Tout cela est fort intéressant, mais en quoi ce livre concerne-t-il notre affaire ? Intervint Andreas, pressé que l'on revienne à son sujet.
Denis de Tourville reposa la plume et le parchemin, puis s'enfonça de nouveau dans son fauteuil, et son visage était resplendissant, comme illuminé par sa propre fascination pour le secret.
Sachez avant tout, maître Saint-Loup, que,
pour ainsi dire, ce livre ne concerne pas seulement votre affaire, mais nous concerne tous, nous les hommes du bas monde, et qu'il est au cœur même des préoccupations de la Schola Gnosticos.
Mais si vous m'en parlez aujourd'hui, c'est bien qu'il a quelque rapport particulier avec mes histoires.
Peut-être. Ou plutôt, très certainement.
Et de quelle manière ? Insista Andreas qui commençait à perdre patience.
Écoutez-moi bien, et vous allez comprendre.
La légende raconte que quiconque parvient à trouver ce livre unique doit d'abord, bien sûr, le lire. Puis que quiconque lit ce livre doit ensuite le comprendre. Et enfin, que quiconque comprendra ce livre disparaîtra du monde, tel que nous le connaissons.
Pardon ?
Quiconque sera en mesure de comprendre le Chatirom Lamiuma disparaîtra physiquement de notre monde et échappera à la mémoire des hommes comme à celle de la terre. Comme s'il n'avait jamais été. Comme s'il n'avait jamais vécu. Et alors, disparaîtront avec lui toutes les traces de son existence ici-bas.
Andreas et Robin échangèrent des regards perplexes. Restèrent silencieux un instant, avant que l'apothicaire, d'un air quelque peu embarrassé, se décida enfin à reprendre la parole.
C'est à nouveau une très belle légende, maître, mais...
Mais vous ne croyez pas à ces choses-là,
termina le gnostique à sa place.
Je sais. C'est pour cela que je vous disais plutôt ne pas pouvoir vous donner de réponse. Toutefois, je vous laisserai y réfléchir.
L'apothicaire qui peinait à masquer sa déception posa néanmoins une nouvelle question.
Soit, admettons. Et qu'y aurait-il à l'intérieur de ce livre de si incroyablement magique pour que sa lecture fît disparaître son lecteur ?
Denis de Tourville écarta les bras d'un air dont on ne pouvait dire s'il était désolé ou moqueur.
Si je le savais, maître Saint-Loup, je ne serais sans doute pas ici.
Andreas hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son agacement, voire sa colère.
En somme, je ne suis pas tellement avancé. Aurais-je fait tout ce chemin et pris tous ces risques pour entendre seulement une vieille légende, certes savoureuse, mais des plus extravagantes ?
Vous êtes bien plus avancé que vous ne semblez le comprendre, cher pharmacien. En outre, vous êtes sur le bon chemin et à votre place, je n'abandonnerai pas maintenant. D'autant que...
Le gnostique s'interrompit, et pour la première fois, le sourire disparut de son grand et large visage.
« D'autant que quoi ?» le pressa Andreas.
« La légende. Cette légende à laquelle vous ne pouvez croire car elle va à l'encontre de votre perception du monde, ce dont je ne saurais vous accuser au reste. Eh bien, cette légende raconte aussi que ce livre, le livre qui n'existe pas, et qui me semble fort bien nommé, ironisa Andreas. Ce livre donc, continua de Tourville, serait protégé par sept gardiens. Sept hommes, que l'on appelle les Malachim.